Marco Bruno, bonjour.
Bonjour Didier.
Vous êtes le directeur général délégué de Mirabeau Asset Management. On va parler avec vous de marché de perspective, un contexte politique nouveau en France. Il y avait eu pas mal d'inquiétudes du côté des investisseurs internationaux, notamment sur l'Europe et sur la suite possible pour la zone euro. Est-ce qu'aujourd'hui on est revenu à un scénario beaucoup plus positif pour l'Europe?
Alors, c'est sûr que l'élection au premier tour d'Emmanuel Macron avec Marine Le Pen a généré une certaine tranquillité sur le marché, une baisse de la décote qu'on avait sur le marché actions, notamment en France. Donc, effectivement, ça a été une première étape. Et puis ensuite, l'élection, j'allais dire, un peu haut la main d'Emmanuel Macron a aidé. Et donc, c'est vrai que dans un environnement, j'allais dire, politique qui était encore un peu incertain, après la victoire en Hollande du parti républicain et puis maintenant d'Emmanuel Macron, on constate en effet sur toutes les classes d'actifs à nouveau une reprise de la volonté de risk-on avec des titres et des actions, une baisse de l'or, une remontée de l'euro face au dollar. Et donc effectivement, on peut se dire qu'aujourd'hui, l'environnement devient plus favorable, en tout cas à court terme, pour les marchés actions, même si les élections législatives de juin donneront aussi une autre indication.
Alors, en même temps, si on parle des États-Unis, il y a eu aussi beaucoup d'anticipations aux États-Unis sur le programme de Donald Trump. Aujourd'hui, on voit que le programme a quand même du retard, ou en tout cas est plus long à se mettre en place que prévu. Les investisseurs restent quand même, on pourrait dire, avec leurs lunettes roses.
Alors c'est sûr, aux États-Unis, les mesures de l'Obamacare notamment ne sont pas passées, donc il y a eu un retard de ce point de vue-là. Les mesures pour abaisser le niveau de fiscalité aussi semblent retardées. Donc la croissance que Donald Trump promettait autour de 3% pour l'année prochaine est reporté au moins à deuxième partie de 2019, on va dire. Et donc dans cet environnement-là, c'est vrai que les actifs européens notamment bénéficient, j'allais dire, d'arbitrage de la part d'allocataires d'actifs qui, au vu un peu des mesures de Donald Trump, des balbutiements de Donald Trump, on l'a vu encore hier avec l'affaire d'espionnage, on voit des arbitrages qui viennent sur les classes d'actifs européennes et notamment sur les actions européennes qui continuent à être portées.
Quand on regarde les marchés du point de vue de la valorisation, on en est où là? Est-ce qu'on n'est pas quand même, alors on parlait bien sûr des États-Unis, peut-être plus à risque que l'Europe, mais on en est où?
Aujourd'hui, sur la classe d'actifs actions européennes, on est toujours avec grosso modo une décote de l'ordre de 15 à 16% sur les actions américaines. Donc ça veut dire qu'il y a encore une réduction de décote qui est jouable, ce qui signifie que le marché américain peut rester stable et le marché européen peut continuer à gratter, à grignoter une partie de sa sous-performance par rapport au marché américain et faire pour l'année 2017, ce qui est un peu dans nos perspectives, une meilleure année relative que les marchés actions américaines. Donc aujourd'hui, les marchés européens sont grosso modo, on va dire, assez bien valorisés. Il faut quand même dire que les croissances des BPA ont été revues à la hausse hein, par les analystes. Maintenant, on cible sur 16-17% de croissance des BPA pour le Stoxx 600. Il y a eu plus de 66% de surprises positives de la part des entreprises, qui est un record depuis plus de 10 ans. Donc on a un environnement microéconomique, on a parlé d'environnement politique et un environnement macroéconomique pour l'Europe qui pourrait permettre encore une fois une poursuite de cette hausse de l'ordre de 4-5%, en sachant qu'en ce moment on a la période des dividendes, donc on a encore 1 à 2% à prendre sur le détachement de dividendes chaque jour.
Quand on s'éloigne un peu de l'Europe et des États-Unis, on pense aux marchés émergents. Les marchés émergents qui ont été finalement moins affectés que prévu par ce qui s'est passé aux États-Unis, peut-être en raison de la hausse moindre du dollar. Comment on les regarde par rapport aux marchés européens et aux marchés américains?
Alors c'est vrai, en début d'année, les marchés émergents étaient un peu craints. On disait que c'était la zone géographique où on aurait des déceptions. Alors oui, en Chine, on a eu des déceptions et le marché a recorrigé, mais dans les autres pays émergents, on a au contraire des indices boursiers à plus de 15% de hausse. Et effectivement, aujourd'hui, on est en mesure de se poser la question, après un rattrapage qui était lié aussi à une mauvaise année en 2016, est-ce que les marchés des pays émergents, notamment avec les inquiétudes sur les matières premières, ont encore du carburant pour progresser? Bon, nous, on pense que, effectivement, les mesures de Trump qui n'ont pas été adoptées, notamment la construction du mur avec le Mexique, a favorisé une poursuite de la hausse du marché émergent. Mais aujourd'hui, j'allais dire, les marchés émergents nous semblent bien valorisés. Et si on avait un ralentissement, ce qui peut être le cas, un peu plus fort que prévu en Chine, même si les autres pays émergents vont bien, si la Chine tanguait un peu, les autres pays aussi. Et donc, dans cet environnement-là, on n'est pas dans une logique de renforcement sur les pays émergents aujourd'hui.
Un mot du marché japonais spécifique hein, par rapport à cette zone, avec des mesures qui avaient été un petit peu commentées par les investisseurs. Comment vous l'analysez, vous, ce marché japonais?
Le marché japonais, il est relativement protégé déjà par les mesures de la Banque du Japon. Il y a un effet yen avec une devise qui est favorable aussi à la poursuite du marché japonais. On considère que le marché japonais peut continuer à progresser. Et puis, on voit que dans les mesures économiques, il y a un début de reprise de croissance qui devrait favoriser les marchés japonais. Donc, c'est vrai que dans la zone Asie, au sens large, on privilégie le Japon aux pays émergents après la récente hausse des pays émergents.
Alors, il y a un sujet qui est toujours très, très compliqué, ou en tout cas pas facile à analyser, c'est le marché pétrolier, puisque là finalement on nous dit que ça va mieux, que l'économie mondiale se porte mieux, que la croissance est là, que ça revient en Europe. On pourrait s'attendre à ce que le pétrole monte de manière un peu plus forte. Aujourd'hui, il reste autour de 50 dollars, alors même que les Russes et les Saoudiens, par exemple, viennent d'annoncer qu'ils allaient continuer de réduire un peu leur production.
Alors c'était le grand sujet, le grand pari de beaucoup d'analystes en début d'année. Hein. Tout le monde voyait le prix du baril à 60-65 dollars. Donc c'était assez consensuel. Et j'allais dire tous les consensus de début d'année ont été inversés, notamment celui-ci, puisque le baril s'est repris récemment, mais avait quand même chuté de 12-13% depuis 3 semaines. Il y a la réunion de l'OPEP le 25 mai qui devrait stabiliser un petit peu les choses et permettre de voir à nouveau un prix du baril autour de 50 dollars. Mais c'est vrai qu'on est tenté de se demander comment se fait-il, vu un environnement où la croissance globale est un peu au rendez-vous partout, pourquoi le baril a autant de mal. Et c'est vrai qu'en début d'année, c'était une position assez logique que de considérer que le prix du baril allait bien progresser et en effet il n'en a rien été. Donc aujourd'hui nous on est plutôt dans une logique de dire qu'on devrait revenir sur les 50 dollars et se maintenir entre 50 et 55 dollars avec un ensemble de mesures prises par les pays de l'OPEP et notamment l'Arabie Saoudite pour maintenir ces niveaux dans les trimestres à venir.
Le mot de la fin, du coup, dans ce contexte favorable aux actions, est-ce que l'allocation d'actifs bouge beaucoup? Elle se situe comment pour vous?
Aujourd'hui, nous, on reste investis en actions européennes, en actions globalement, mais surtout en actions européennes. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu, entre guillemets, un avantage relatif par rapport aux autres zones. Donc on dit qu'aujourd'hui, la zone européenne est vraiment la zone à jouer. On est dans une logique où on pense qu'il faut se laisser porter, parce qu'il y a un autre phénomène qui est important, c'est le phénomène des flux. Et les flux restent solides. Donc on reste investi, et si on avait un repli sur une consolidation d'ici la fin du mois ou courant juin avant l'été, on conseille de se renforcer un peu pour profiter d'une fin d'année qui devrait encore nous permettre de progresser de l'ordre de 3, 4, 5%.
Merci Marco Brodeau.
Merci.